Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Parmi les fleurs embrasées » de Samantha Shannon, lu par Amandine Longeac. Traduit par Benjamin Kuntzer. Pour mon frère, Alfie. Les terribles événements de cette époque ont arraché par les racines le noble arbre d'espérance. Et l'on pourrait dire des jardins du monde qu'ils les ont dépouillés de leurs feuilles à perte de vue. Jahan Malek Khatoun. Une préquelle indépendante au prieuré de l'Oranger, narrant l'histoire de la chute de la Hiscaline. Un printemps étouffant étrangle le royaume de Hiscaline. Marossa Vetalda est prisonnière en sa propre demeure, sous le contrôle de son père, le roi Sigozo. Par-delà les montagnes, son fiancé, Obrecht Lievelin, a tout d'un souverain sauf le nom. Ensemble, ils comptent inaugurer un monde meilleur. Un monde meilleur ne semble même pas être possible pour Estina Melaugo, qui traque les créatures draconiques restées endormies pendant des siècles sur tout le continent. À présent, le grand Wyrm Féoudel cherche à se venger de l'humanité. Et la Hiscaline sera la première à tomber. Avant. Marossa. Karskaro. Royaume de Hiscaline. 1003 EA. Bien avant de devenir une ville, Karskaro avait été une mine. En ce temps-là, les Gul'tagan régnaient sur le nord-est du vaste continent d'Edain. Désireux de conquérir un domaine plus vaste, l'impérator de Gul'taga avait envoyé ses soldats par-delà les montagnes à l'ouest de la ville, vers une terre qu'ils ne connaissaient pas, afin d'y extraire du cuivre pour leurs armures et leurs épées. De l'autre côté des fuseaux glaciales, les soldats avaient flairé la présence du minerai et s'étaient mis à creuser. Cependant, les tribus occidentales d'Edain, les Hiscalins, vénéraient les montagnes sur leurs terres. Ils maudirent les nouveaux venus pour avoir miné le mont Frouma, car ils voyaient en ce pic un dieu pétrifié, le géant qui avait créé leur peuple. Les Hiscalins se battaient avec des armes en bois et en silex. Celles des Gul'tagan étaient en bronze. Le combat était perdu d'avance. Contraints de travailler dans les mines ennemies, les Hiscalins s'écorchaient la peau dans le but d'expier leurs fautes, redoutant le courroux de leur dieu. Les Gul'tagan avaient nommé cet avant-poste Karkara, mot signifiant « cage à oiseaux ». Même lorsqu'ils furent finalement chassés de Hiscaline, 2 siècles après leur arrivée, Karkara demeura un lieu d'exil. Quiconque s'étant échappé de son enceinte avait péri dans la plaine en contrebas, et ses os s'étaient mêlés à la poussière. Ces jours étaient depuis longtemps révolus pour la plupart. Les anciens dieux de la montagne avaient été oubliés, supplantés par le saint étranger. Les vieilles mines de cuivre gisaient enfouies sous Karskaro, désormais devenue la magnifique capitale de la Hiscaline, dont le peuple pouvait aller et venir selon son bon plaisir. Ce n'était pas le cas de la future reine, la Donmata Marossa. Au 7e jour du printemps, ses yeux s'ouvrirent brusquement, comme si le saint était descendu de la cour sacrée du Algalan pour la réveiller. Non loin d'elle, sa première dame de la chambre dormait encore, ses boucles brunes déployées en corolle sur l'oreiller. Riessa avait toujours eu le sommeil profond. Marossa tendit l'oreille. La moitié de son être était là, dans sa peau, mais l'autre était ailleurs, dans un autre temps. 3 souvenirs jaillirent en succession rapide. Un murmure à son oreille, une main autour de la sienne, un cri. Comme rien ne vint déranger le silence de la chambre, elle se leva et laça une robe sans manches au-dessus de sa chemise. L'air ambiant lui paraissait aussi épais que du beurre. Le moindre mouvement faisait perler la sueur. Elle ouvrit les portes de ses appartements en espérant une brise fraîche, une boisson glacée. À en juger par la lumière tamisée du corridor, c'était le point du jour. Elle se levait rarement si tôt de sa propre initiative.
Donmata.
La voix émanait de sa gauche, où Hermendo Vulaidres se tenait devant une fenêtre, armé d'un pistolet et d'une rapière, une hallebarde à portée de la main.